Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Il y a 2 ans, jour pour jour, le plus grand bidonville de France était évacué. Les pelleteuses avaient détruit alors les abris de fortune dans la jungle de Calais. Et près de 6500 migrants avaient été envoyés dans différents centres d'accueil un peu partout dans le pays. Aujourd'hui, malgré des évacuations régulières, comme à Grande-Synthe hier, plusieurs centaines de migrants vivent toujours dans des conditions difficiles à Paris, à Nantes et toujours à Calais. Avec cet espoir encore de traverser la Manche, ils sont entre 450 et 500, des exilés dont la santé mentale est aujourd'hui préoccupante. Les troubles psychiques sont cachés, mais bien réels, et les associations comme Médecins du Monde tentent de les soigner. Reportage Lise Verbeck.
Comme tous les jeudis, l'ambulance de Médecins du Monde s'installe près d'un camp de fortune. Une quarantaine de tentes sont dressées sur ce terrain vague, quelques centaines de mètres du port de Calais. Très vite, une file d'attente se forme. Des migrants viennent voir les médecins pour un mal de tête, des blessures à la jambe ou au pied, ou pour des problèmes d'asthme, comme Cheyenne.
Mon asthme a empiré depuis que je suis ici. Je respire mal. Je suis venu voir le docteur.
Dans l'intimité de l'ambulance, cet ingénieur afghan montre des photos de sa famille à l'infirmière bénévole. Cheyenne a dû partir précipitamment de son pays.
J'ai eu des problèmes en Afghanistan. Des ennemis de ma famille m'ont attaqué, ils m'ont tiré dans le dos, m'ont menacé de mort. Je me suis échappé. J'ai traversé 9 pays pour arriver jusqu'ici. J'ai laissé ma femme et mes 2 enfants en Iran. Mon fils a 9 mois, je ne l'ai jamais vu car quand je suis parti, ma femme était enceinte. Quand j'appelle ma fille, elle pleure tout le temps, elle ne comprend pas. C'est très dur pour moi, mais je ne dis pas à ma famille que je vis ici. C'est comme ça.
Hors micro, Cheyenne raconte les cauchemars qu'il fait la nuit, sa nervosité et les baisses de morale, mais n'en dira pas plus sur ce qu'il ressent. Comme lui, pour beaucoup de migrants, il est difficile de se livrer aux bénévoles de Médecins du Monde sur leurs souffrances psychiques. Souvent, c'est leur corps qui parle pour eux.
On va avoir des signes somatiques de douleurs diffuses, maux de tête, troubles du sommeil.
Aurélie Denoual, coordinatrice médicale sur la mission Nord-Littoral pour Médecins du Monde.
Ce sont des symptômes qui peuvent cacher autre chose, qui peuvent cacher une autre souffrance et qui doivent nous alerter. On peut rester sur le fait que la personne se présente à nous avec des douleurs de dos et puis pas aller plus loin. Mais je pense que ce qui est important, et on essaye d'accompagner les équipes dans ce sens, à aller un petit peu plus loin que cette première demande. Et voilà, ce qui n'est pas toujours très simple, parce que voilà, ça met du temps aussi pour les personnes à se livrer.
Pour les aider à exprimer leurs sentiments, Médecins du Monde a mis en place des ateliers. Ce jour-là, c'est Lucille, une étudiante en psychologie, qui s'en occupe.
How are you?
Fine, thank you. I'm Amir.
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 Ici, je fais les activités psychosociales. Ça consiste à créer un lien avec les migrants pour créer une sorte de confiance. Concrètement, c'est sortir des jeux de société, des jeux d'extérieur. Et à travers le jeu, souvent, il y a la discussion. Les gens commencent à raconter d'où ils viennent, leur vie. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler des sentiments, des sensations. Et c'est là que les migrants abordent leur mal-être.
À l'aide d'un traducteur de téléphone, Lucille fera 3 entretiens avec 3 hommes dépressifs. Mais la langue est une vraie barrière. Difficile pour certains de se confier alors qu'ils parlent très peu anglais. Alors une association, Art Refuge UK, les aide à s'exprimer grâce à l'art, en leur proposant notamment de la pâte à modeler. Devant Bobby, l'une des bénévoles, sur la petite table installée près du campement, des serpents, des chiens, une maison ont été façonnés par les migrants.
Les gens réagissent de manière différente. On peut voir des migrants très en colère. Ils nous disent que cela ne sert à rien. Cette colère, nous sommes habitués à la recevoir ici, dans un endroit difficile à vivre. D'autres se prennent au jeu, nous disent qu'ils veulent créer un animal. Les gens reçoivent cet atelier de différentes manières. Nous ne leur posons pas de questions, on ne les contredit pas, nous les aidons à s'apaiser.
Marianne, l'autre bénévole de l'association, a accroché sur le camion de Médecins du Monde un grand planisphère.
Souvent, quand les gens ont fait un périple compliqué, ils ne savent pas vraiment où ils sont. Certains regardent la carte et disent « je viens d'ici ou de là ». Et parfois, ils réalisent le trajet accompli. Pour d'autres, c'est difficile car ils se rendent compte à quel point ils sont loin de chez eux. Et ils nous racontent des histoires très difficiles. Donc c'est inévitable, les migrants ont une santé mentale fragile parce que leur famille leur manque. Ils ne savent jamais quand la police viendra pour les évacuer et prendre leurs affaires.
Médecins du Monde alerte depuis plusieurs mois sur les nombreuses souffrances psychiques des migrants et notamment du syndrome de stress post-traumatique. Pour l'association, c'est une urgence de santé publique pas assez prise en compte par l'État et que les associations ne peuvent gérer seules. Un manque de prise en charge, c'est ce que dénonce également Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski. Elle est psychologue, clinicienne et ethnologue et elle suit en consultation 2 jours par semaine des migrants à Bobigny.
La dernière fois qu'on est allé à Calais, on a rencontré beaucoup de populations qui, contrairement à ce qu'on avait toujours pu voir quand on allait dans la jungle de Calais, à Grande-Synthe, c'est-à-dire qu'il y avait une trajectoire, qu'il y avait un but, qui vous disait c'est dur, mais qui continuait à sourire. Là, on s'est retrouvés en face de personnes qui n'avaient même plus envie de parler. Plus envie de parler d'eux, plus envie de parler de leurs projets, plus envie de parler de leurs rêves. Elles sont complètement bloquées. Elles n'ont plus rien à dire à leur famille. Et psychiquement, c'était du coup des profils très différents. On a senti des personnes qui laissaient tomber, si vous voulez. Ça me paraît très très dangereux à terme, parce qu'on fait des personnes qui, à un certain moment, se sentent de toute façon persona non grata, donc n'ont plus rien à faire, finalement. Et ça, on l'a très très bien senti.
Parmi les migrants qui sont à Calais, certains ont été déboutés de leur demande d'asile en France. D'autres, à cause des accords de Dublin, doivent retourner en Italie. Alors ils tentent régulièrement de monter à bord d'un camion pour traverser la Manche.
Il y a ceux qui ont réussi à atteindre l'Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne, et qui attendent désespérément que leur demande d'asile soit acceptée au prix quelquefois de leur santé mentale. Il y a ceux qui sont encore bloqués en Turquie, victimes de l'accord conclu entre Ankara et Bruxelles en 2016. Accord d'ailleurs que les Européens aimeraient dupliquer avec les pays du Maghreb. Olivier Henrion est allé voir quelle était la situation des réfugiés syriens là-bas. Et d'abord à Izmir, au bord de la mer Égée, première destination turque des candidats au voyage vers l'Europe il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, la station balnéaire est plus calme, mais elle accueille encore nombre de réfugiés.
Tous les Syriens n'ont pas quitté la région. Il en reste encore quelques 140 000 installés ici en attendant la fin de la guerre. Parmi eux, Mohamed et sa femme Nadia. Ils ont 30 ans, 2 enfants en bas âge. Ils sont arrivés là il y a 5 ans. Ils vivent dans un petit appartement. Mohamed est tailleur, il travaille au noir. Il ne gagne pas suffisamment pour faire vivre sa famille. Alors, depuis quelques semaines, il reçoit chaque mois une aide de 600 livres turques, environ 75 euros, qu'il peut retirer grâce à une carte bancaire.
Maintenant, avec la carte, la situation s'est améliorée. Cela m'a beaucoup aidé pour payer le loyer notamment. Mais je dois quand même travailler, comme la plupart des réfugiés, je ne peux pas juste compter sur la carte.
Pour Mohamed et sa famille, cette aide financière a permis de repousser la peur de se retrouver à la rue sans pouvoir payer de loyer. C'est tout. Pas question de mettre de l'argent de côté, c'est ce que nous explique Nadia. D'ailleurs, elle est en train de faire les fonds de tiroir pour préparer le café dans la cuisine.
Cette carte, ça nous aide bien sûr, mais on n'a pas changé nos habitudes, parce qu'avant la carte, les choses n'étaient pas si chères qu'aujourd'hui. Tout ça, c'est à cause de l'inflation.
C'est ECHO, le bras humanitaire de la Commission européenne qui finance cette aide sociale d'urgence. Elle est destinée aux familles les plus vulnérables, réfugiées en Turquie. C'est le plus gros budget d'aide humanitaire lancé par l'Europe, 1 milliard d'euros sur les 6 milliards que les Européens se sont engagés à verser à la Turquie. Cette allocation a également permis de fixer les populations sur place et d'éviter qu'elles ne tentent la traversée. Et pour permettre l'intégration de ces populations dans la société turque, les petits-enfants syriens vont à l'école turque. Nous sommes à Şanlıurfa, au sud-est du pays, à une 50aine de kilomètres de la frontière syrienne. Dans cette région, ce sont près de 500 000 réfugiés syriens qui sont installés. Nous y retrouvons Mahmoud. Il est venu ici avec sa femme et ses 7 enfants. Les plus jeunes vont à l'école turque, mais pour les plus âgés, des ados, c'est beaucoup plus difficile. Leur niveau de turc les a conduits dans des classes de primaire avec des enfants beaucoup plus jeunes. Alors pendant 4 ans, ils ont préféré sécher les cours. Pour leur permettre de rattraper leur retard, les autorités turques, avec l'aide de l'Union européenne, ont lancé des écoles de la deuxième chance. Dans cette classe, on trouve Zahra, Ahmed et Mohamed sont les enfants les plus âgés de Mahmoud.
Au début, on ne comprenait pas ce que nos voisins turcs racontaient. Maintenant, on commence à leur parler. Et on regarde la télé en turc.
Le programme a été lancé il y a 4 mois. Il ne touche que 2000 jeunes Syriens. Mais ils imaginent leur avenir en Turquie alors que leurs parents rêvent encore d'Europe.
Samorządowcy z PO chcą przyjmować migrantów. Potwierdzili to specjalną deklaracją. Dziś PO zapowiada likwidację urzędów wojewódzkich.
Une Europe qui n'est plus tellement accueillante, surtout dans l'Est, en témoigne un spot télévisé en Pologne, initié par le parti ultra-conservateur au pouvoir, le PiS. Diffusé sur des chaînes privées, il imagine la victoire de l'opposition aux prochaines élections de 2020, avec une déferlante de migrants dans le pays. Le spot mélange ensuite les images d'émeutes et d'attentats. Si le gouvernement à Varsovie relaie ce type de propos et refuse les quotas européens d'accueil des migrants, des villes en Pologne résistent, comme Gdańsk, 500 000 habitants, qui a déjà aidé plus de 25 000 personnes. Thomas Giraudeau s'est rendu dans le centre d'aide aux migrants de la ville.
Une plaque discrète accrochée à l'entrée d'un vieil immeuble, quelques bureaux et une salle de cours. Les locaux du centre d'aide aux migrants de Gdańsk sont modestes. Nous y rencontrons Natalia. Elle s'est retrouvée ici il y a 4 ans. Cette Ukrainienne, craignant pour sa vie, décide du jour au lendemain de quitter son pays. À 43 ans, cette mère de famille remplit une valise, prend avec elle son fils de 8 ans et monte dans un bus direction la Pologne. Après des premières semaines très difficiles à Varsovie, elle débarque ici à Gdańsk.
J'ai lu sur internet que c'était une ville multiculturelle, où les gens sont sympas, où il y a déjà une importante communauté ukrainienne, où c'est facile de trouver du travail, plus qu'à Varsovie. Et pour mon fils, c'est un vrai avantage d'être au bord de la mer. Alors on a déménagé ici en août 2014. Ensuite, j'ai voulu apprendre le polonais et j'ai vu que le centre d'aide aux migrants donnait des cours, alors je suis venue.
4 ans plus tard, Natalia est quasiment bilingue. Pour légaliser son séjour, en revanche, ce fut beaucoup plus difficile que d'apprendre la langue.
Après l'échec de ma première tentative de demande d'asile, j'ai été aidée par un juriste du centre. Ensuite, j'ai travaillé ici en tant qu'assistante d'aide au séjour. Mais en décembre 2017, pour la troisième fois, ma demande d'asile a été rejetée. Je devais quitter la Pologne, mais j'ai refusé. Mon fils a très mal vécu cet ordre d'expulsion. J'ai dû l'emmener voir un psy qui a écrit une lettre expliquant qu'on ne pouvait pas rentrer en Ukraine. Alors, en juillet 2018, enfin, nous avons obtenu notre titre de séjour. Mon fils est très heureux et nous pouvons enfin penser sereinement au futur, ne plus être assis sur nos valises.
Pour Natalia, aucun doute, sans le centre d'aide aux migrants, elle ne serait plus ici aujourd'hui. Durant ces 4 années, elle a notamment été aidée par Julia Chavlovskaya, biélorusse d'origine. Elle est d'abord partie en Ukraine, puis en Pologne en 2014 pour fuir la guerre dans le Donbass. Arrivée au centre de Gdańsk pour apprendre le polonais, elle est maintenant consultante dans ses bureaux.
J'ai une mission ici, celle d'aider des personnes qui ont parcouru le même chemin que moi. Je comprends très bien ceux qui viennent chercher du boulot ici, qui recommencent tout à zéro. J'ai été à leur place. Alors je les aide à préparer leur CV, je leur donne des conseils pour chercher du travail. Enfin, ici, au centre, nous les aidons à remplir les documents administratifs. C'est grâce à eux qu'ils pourront rester en Pologne.
Créé en 2012, le centre et ses 10 collaborateurs reçoivent plus de 400 migrants par mois, pour la plupart ukrainiens ou biélorusses, autant d'hommes que de femmes. Certains fuient pour des raisons politiques, mais la majorité s'installe à Gdańsk pour trouver un travail et gagner un meilleur salaire. L'intégration n'est pas toujours simple, car les habitants ne sont pas tous forcément aussi accueillants. Claudia Iwitska travaille au centre depuis sa création.
Bien sûr que certains ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons. Quand nous avons ouvert ce lieu, nous recevions beaucoup de courriels, de coups de téléphone. Ça continue encore un peu aujourd'hui. Comme notre centre est financé par la mairie sur des fonds publics, je me sens obligée de répondre à tous les appels. Alors je parle avec ceux qui nous critiquent. Je ne réussis pas toujours à les convaincre, mais souvent ils disent « bon, c'est bien, au moins vous enseignez le polonais aux migrants ». Mais je dois dire que la plupart des réactions sont positives. Les gens nous offrent des meubles, des lits, nous proposent de traduire. Nous n'avons même pas à gérer toute cette aide bénévole.
Chaque année, la mairie dépense 2 millions d'euros pour soutenir le centre d'aide aux migrants et leur intégration dans la ville. Le maire sortant de Gdańsk, Paweł Adamowicz, a aussi fait voter un décret municipal, tout un ensemble de règles pour bien accueillir les étrangers.
Nous avons accueilli environ 25 000 migrants dans notre ville, surtout des Ukrainiens et des Biélorusses. C'est bien qu'ils viennent chez nous, car nous manquons de main-d'œuvre. Alors oui, Gdańsk, c'est une ville différente du reste de la Pologne. Ça s'explique par notre histoire. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait seulement 70% de Polonais dans la population. Ce n'est que depuis 1945 que les Polonais sont majoritaires. Avec nos racines étrangères, allemandes surtout, nous sommes plus ouverts, plus respectueux envers l'autre.
Cette politique d'accueil vaut au maire de nombreuses attaques. Des dizaines de nationalistes ont manifesté à plusieurs reprises dans les rues de Gdansk et sur les réseaux sociaux. Paweł Adamowicz est parfois traité de terroriste voulant islamiser sa région, alors que l'immense majorité des migrants arrivant sur le sol polonais sont chrétiens. Mais ce qui l'inquiète plus à court terme, c'est ce qu'il appelle le régime de Kaczynski, le chef du parti PiS au pouvoir dans le pays. De plus en plus conservateur et xénophobe, et face à lui, le maire appelle à la lutte, au combat pour créer une société polonaise plus ouverte.
La chronique.
Des jeunes Européens qui ne sentent pas forcément bien. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
On revient dans Accent d'Europe sur la situation financière de ces jeunes qui ne cessent de se détériorer depuis des années. Alors qu'en France, l'Observatoire des inégalités vient de rappeler que les moins de 30 ans sont en effet les plus touchés par la pauvreté, une nouvelle enquête réalisée à l'échelle européenne montre que près de la moitié des jeunes Européens a peur de basculer dans la précarité dans les mois qui viennent.
Oui, il serait 44% à le penser en France, 56% en Italie, où l'inquiétude est la plus élevée, bien plus qu'en Grande-Bretagne, 32%, ou en Pologne, 28%. Quatre pays qui faisaient partie de l'enquête réalisée par l'Institut Ipsos pour le compte du Secours Populaire sur un échantillon de 2500 jeunes européens entre 15 et 25 ans.
Et tous ou presque considèrent que la précarité a augmenté dans leur propre pays.
C'est surtout le cas des jeunes Français, plus inquiets sur le sujet que leurs homologues européens. Seuls les Polonais semblent gonflés d'optimisme. Ils ne sont qu'un tiers à estimer que la précarité est en hausse chez eux, en Pologne et dans le reste de l'Europe.
Des chiffres qui s'expliquent aussi par la croissance dans le pays.
Oui, et surtout par les chiffres du chômage chez les moins de 25 ans. Beaucoup plus encourageant en Pologne que dans le reste de l'Europe. Les jeunes Polonais sont d'ailleurs plus nombreux à travailler que leurs voisins. 87% d'entre eux déclarent une activité professionnelle contre 80% des Français et 77% des Italiens. Pas étonnant non plus de constater que les taux de chômage des jeunes sont les plus élevés en Italie, 31% et en France autour de 20% contre 11 et 19% en Grande-Bretagne et en Pologne, ce qui est évidemment une autre façon d'expliquer la confiance en l'avenir.
Et Eve, quelles sont les conséquences immédiates de cette précarité ou de la peur de la pauvreté ?
Sans surprise, cette peur du lendemain empêche d'abord les jeunes de s'émanciper et de quitter par exemple le foyer familial. 2 Européens sur 3 avouent devoir demander de l'aide à leurs parents pour subvenir à leurs besoins. Et ce, y compris chez les jeunes actifs. 1 jeune actif sur 2 exactement, même quand il travaille à temps plein, a besoin de ses parents. La plupart du temps, cette aide se matérialise sous la forme d'un hébergement gratuit. Certains pays n'ont d'ailleurs pas hésité à mettre carrément en place des politiques publiques encourageant les jeunes à rester chez leurs parents. C'est le cas au Royaume-Uni, en Allemagne ou même au Danemark et aux Pays-Bas, plus connus pour leurs aides à l'émancipation.
Et la pauvreté des jeunes n'a pas que des conséquences au niveau familial, Eve.
Oui, car du côté des jeunes qui font le choix de quitter le logement de leurs parents, la part des dépenses allouées à la location d'une chambre ou d'un appartement atteint jusqu'à 40% du budget total. Résultat, la variable d'ajustement est souvent celle du budget alimentaire. Près de 1 jeune sur 2 déclare avoir rencontré des difficultés importantes pour se procurer une alimentation saine et équilibrée l'année précédente.
Autre corollaire de la précarité, c'est la résignation des jeunes face à un ascenseur social toujours en panne.
Même si le diplôme reste l'un des boucliers les plus efficaces contre la pauvreté, l'épanouissement professionnel n'est pas au rendez-vous, en tout cas pas pour tous, et dépend largement de l'origine sociale des jeunes travailleurs. Car face à un risque accru de pauvreté, les jeunes diplômés qui arrivent à trouver un emploi se déclarent souvent prêts à le conserver coûte que coûte, même s'il ne correspond pas tout à fait à leurs attentes, ce qui est moins le cas chez les jeunes issus de milieux favorisés. Bref, en France notamment, moins 1 jeune sur 2 croit encore au fonctionnement de l'ascenseur social, une injustice qui risque de produire bien des dégâts à long terme.
Et on est donc amené à en reparler. Merci Eve Minot, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci de nous avoir suivis sur Accent d'Europe. À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et nous suivre sur notre page Facebook.